Respirer. Apprendre. Je serai à TER numéro. S'évader. Découvrir. H2O en balade.
H2O en balade qui va vous amener dans la région Auvergne pour découvrir un petit peu le milieu aquatique de cette région. On va parler d'eau douce ce matin. Et puis le reportage nous amènera pour son dernier épisode à la découverte de la faune et de la flore auvergnate et surtout des conséquences du changement climatique. On va s'intéresser d'ailleurs ce matin avec Christophe Noiseux et le naturaliste Gérard Guillot aux insectes. Voilà ce qui s'est passé, justement ce changement, ce que ça a représenté sur les insectes de notre région. On vous donnera bien sûr quelques idées de sorties nature. Rendez-vous à ne pas manquer en Auvergne. Et nos invités sont avec nous. On va parler flotte aujourd'hui.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
L'eau, c'est un bien précieux. L'eau, c'est une caractéristique qu'on connaît bien en Auvergne. On dit souvent que l'Auvergne est un petit peu le réservoir d'eau de la France, le château d'eau de la France. Et pour en parler avec nous, eh bien, il y aura deux personnes aujourd'hui. C'est Karim Zbantar, qui est directeur de l'agence Centre Condom d'Auvergne de Aquabio. Karim, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également Vincent Berton, qui est docteur sciences en hydroécologie, c'est ça.
C'est ça.
Bonjour. Vincent Berton.
Bonjour.
Alors, si vous êtes là tous les deux, c'est pas pour rien. C'est que dans cette émission, on parle nature, on parle environnement, économie sociale et solidaire. En fait, vous allez les trois réunis en même temps. On va parler d'Aquabio. Aquabio, c'est une société qui aujourd'hui comporte 90 salariés, dont 73 sont associés parce que c'est votre anniversaire, il faut le dire, Karim Zamta.
Exactement.
C'est votre anniversaire, ça fait 10 ans que vous êtes passé en SCOP pour Aquabio qui a 20 ans. Pourquoi ce choix de passer en SCOP ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit quand même dans une continuité de réflexion et une continuité dans le temps.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai ouvert un bureau d'études dans les années 90. Mmh. Bruno Fontaine a créé Aquabio en 98.
D'accord.
On était sur des schémas traditionnels de sociétés traditionnelles, SA ou SARL, avec le visage classique.
D'accord.
D'une société, un patron qui a en charge la gestion d'une entreprise qui lui appartient.
C'est un peu vertical dans le management, on va dire.
Exactement, c'est la chose traditionnelle.
D'accord.
Et il s'est avéré qu'à l'initiative de Bruno Fontan, en 2007, il m'a sollicité pour fusionner nos deux bureaux autour d'un projet. Alors, c'était soit une envie, soit un rêve, mais en tout cas, c'était quelque chose d'extrêmement concret, de créer une société coopérative. Donc, en 2007, la fusion, et 2008, la fusion a été effective.
Ouais.
Aquabio,
ouais.
Société coopérative, ouais, a été créée, donc à la suite d'Aquabio, société SA classique. Et donc, cette année, on fête les 10 ans d'Aquabio, société coopérative.
En scope, voilà. Effectivement, Bruno Fontan qui disait « Je n'ai pas vocation à être patron », ça veut dire que toutes les décisions finalement se font de manière plus horizontale chez vous.
C'est pas aussi simple.
Ça.
Lui, ses convictions personnelles que le plus grand nombre partageons font que effectivement l'idée d'être patron, c'est patron fermé dans son bureau et puis encaissant les dividendes, c'était pas ça. L'idée.
C'était pas son truc.
Il n'empêche que on sait qu'on est obligé de passer par une pyramide hiérarchique parce que il faut quand même ordonner le système.
On va quitter un petit peu l'aspect juridique, etc.,
oui,
pour partir carrément dans le cœur du sujet. Alors, vous êtes une société leader en France, dans le secteur, celui de l'expertise en écologie aquatique. Et là, je vais me tourner du côté de Vincent, qui connaît bien l'hydroécologie. Qu'est-ce qu'on entend par expertise en écologie aquatique, Vincent Berton ?
Ça, c'est une drôle de question.
C'est une question.
Expert en écologie aquatique, ça veut dire... On travaille sur l'ensemble des composants, que ça soit des rivières, des lacs, des étangs.
Des zones humides, par exemple, aussi.
Zones humides, ouais, je pense.
Karim Zamta,
oui, l'idée, c'est que on sait tous qu'il y a des eaux de surface.
Oui.
Les eaux de surface, c'est des rivières, c'est des lacs. Nous, on nous sollicite, alors que ce soit des privés ou des publics, pour dire Est-ce que la rivière est propre? Est-ce que mon lac est propre? Pour envisager par la suite, en cas de dysfonctionnement, de la restauration. D'accord. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est des individus, des organismes publics ou privés qui s'interrogent sur est-ce que mon eau est propre ou pas. Et nous, on intervient là pour diagnostiquer. Alors, on a des éléments diagnostiques qui sont basés sur la biologie des cours d'eau. Donc, c'est ce que Vincent peut expliquer. On a des niveaux trophiques, c'est-à-dire la biologie des cours d'eau.
Très bien, donc quand on parle de la DAS, par exemple, qui s'occupe de mesure de l'eau, c'est un petit peu votre travail ou ça
n'a rien
à voir?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la DAS, c'est les affaires sanitaires et sociales. Oui. C'est-à-dire que eux s'occupent plus de, si vous allez dans une piscine à Chamalières, mettons, il faut pas que vous attrapiez des vilaines choses sur vos pieds ou dans les plaies. Voilà. Nous, c'est pas tout à fait ça. On est plutôt lié au milieu naturel.
D'accord.
Et au multi-usage du milieu naturel. L'idée, c'est que chacun perçoit le milieu par rapport à ses propres envies, ses propres besoins, ses propres rêves. C'est-à-dire qu'on a très rapidement compris que la qualité et autant les envies de restauration sont différentes en fonction des personnes à qui on a affaire.
Aquabio, donc, une entreprise à découvrir aujourd'hui, une SCOP qui a 10 ans. On est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. On va revenir un petit peu sur vos actions et surtout sur la méthode que vous avez choisie, que vous appliquez, parce que vous êtes vraiment en avance sur la technologie, on va dire ça, de manière innovante. Et on va en parler avec Aquabio ce matin, nos invités, jusqu'à 12h30.
H2O. Jusqu'à 13h, redécouvrez l'Auvergne avec H2O et son invité.
France Info présente la deuxième édition de son événement New Storm, jeudi 14 décembre à 19h à la Maison de la Radio. Journalistes, youtubeurs, robots, followers, citoyens. Aujourd'hui, qui fait l'info? Venez rencontrer les grands acteurs de l'info, Google, Brut, Combini, BuzzFeed et beaucoup d'autres. Inscrivez-vous sur maisondelaradio.fr. New Storm, jeudi 14 décembre, un événement France Info.
Et si on pensait au Roquefort? Aujourd'hui, pour le déjeuner, c'est fromage et dessert. Une belle tranche de Roquefort, quelques grains de raisin, des noix, une demi-figue et encore du Roquefort. C'est simple, c'est vrai, c'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, évitez de grignoter.
L'école buissonnière, c'est le nouveau roman de Nicolas Vanier.
L'histoire bouleversante dans une mystérieuse Sologne d'un gamin des villes, Paul, et d'un braconnier solitaire et attachant. Une magnifique ode à la nature et à l'amitié.
L'école buissonnière de Nicolas Vanier, un livre, un film, un événement.
Découvrir
l'Auvergne.
H2O, partez en balade.
On va poser une question comme on le fait tous les jours, hein, Karim Zmantar à Aquabio. On va demander quel objet vous avez choisi de présenter à nos auditeurs ce matin. Je rappelle qu'on parle d'expertise en écologie aquatique.
Oui,
Karim.
Tout à fait. Donc moi, j'ai choisi un livre qui m'a été offert quand j'ai commencé à travailler dans les années 90 par le professeur Olivier Balabagnan, de l'Université de Limoges, qui en plus d'être un très brillant universitaire, a une dimension humaine et une dimension de réflexion qui est excessivement importante. Et j'ai amené ce livre-là parce que moi, issu de la fac des sciences, quand j'ai côtoyé le professeur Balabagnan, qui est géographe, alors déjà il y avait des rivalités entre les sciences et les lettres à cette époque-là, et Balabagnan m'a expliqué que autour de la rivière, il y avait des hommes qui étaient totalement novateurs à l'époque, et je n'ai jamais oublié que quand on traite un sujet qui concerne les cours d'eau ou les plans d'eau, il y a toujours des hommes autour, il y a toujours des individus. Donc voilà, c'est une manière de lui rendre hommage aujourd'hui, mais également de souligner que la démarche que l'on a, nous, d'approche du milieu naturel, ne fait jamais fi de la présence humaine.
Voilà, et de la vie en général.
C'est ce qu'on va voir. Et de la vie en général.
C'est ce qu'on va voir justement dans la façon dont vous procédez. L'eau et la maîtrise de l'eau en Limousin, Olivier Balabagnan et Guy Bouet, c'est paru en 89. On le trouve toujours encore ce bouquin, vous pensez?
Je pense, c'est une petite maison presse qui se situe en Corrèze, je crois.
Limousin, oui, voilà. Tout à fait. Exactement. Alors, deuxième question, vous êtes venu avec un drôle d'objet que je connais bien, je l'utilise tous les jours moi-même, Vincent Berton. Qu'est-ce que vous avez amené?
Moi, j'ai amené une brosse à dents.
Oui. Pourquoi?
J'ai amené une brosse à dents parce qu'elle elle représente ce que je fais, mon métier.
C'est-à-dire?
Et moi, je suis spécialiste sur les algues qu'on appelle des diatomées. Et pour l'utiliser en bioindication, pour utiliser ces algues-là en bioindication, on brosse des cailloux.
D'accord.
et on brosse des cailloux avec une brosse à dents.
Ça fait partie du kit,
ça fait partie du kit
de la recherche.
Et ouais. Alors c'est moins joli qu'un joli filet sur beurre, ouais, ou qu'une anode de pêche électrique.
Mais ça marche.
Mais ça marche très très bien et c'est un petit objet simple. Et donc c'était voilà pour dire que objet. Finalement ce qu'on fait, ça peut être perçu comme quelque chose de pointu, tout ce qui est bio-indication, ouais, tout ce qui est science, etc. Mais finalement,
une simple brosse à dents suffit.
On reste sur quelque chose de très simple.
Voilà, un outil qui est fiable en plus et qui peut servir après le boulot éventuellement. Très bien. Voilà les objets, on l'a vu, l'objet de Karim, un livre et la brosse à dents de Vincent Berton pour Aquabio qui est avec nous jusqu'à 12h30.
S'évader. Vous partez en balade, H2O. France Bleu Pays d'Auvergne a sélectionné pour vous
le village des producteurs de sites remarquables du goût installe la salle du Moulin de l'Étang. Ça va se passer à Billon. Ce sera donc du 1er au 3 décembre. 3 jours, plus de 30 producteurs venus de toutes les régions de France pour découvrir les richesses du terroir français. On y découvrira des espaces de dégustation, des lieux de pause gourmande, des tartines seront proposées, des assiettes aussi. Les exposants qui prendront le temps d'expliquer la typicité de leurs produits. Une émission spéciale avec France Bleu s'y déroulera dimanche 3 décembre, ce sera au Moulin de l'Étang en direct de Billon entre 10h et 12h30. Vous allez sur le site de la ville de Billon pour le programme détaillé. Il est midi sur France Bleu, les infos avec Emmanuel Moreau. Emmanuel, la grande collecte nationale de la Banque alimentaire a commencé ce matin.
Oui, une collecte qui doit durer 3 jours jusqu'à dimanche. 2500 bénévoles sont mobilisés dans les 200 supermarchés et hypermarchés de la région. La Banque alimentaire qui a besoin de denrées alimentaires non périssables. À midi et demi, nous entendrons Christian Tchan, c'est le président de la Banque alimentaire en Auvergne. Les thermes d'Auvergne vont peut-être revendre de l'énergie grâce à la chaleur de leurs eaux. À Chaudzec, par exemple, on se chauffe déjà avec cette eau chaude offerte par la nature. Une étude est en cours dans 6 établissements thermaux de la région pour voir comment récupérer ces calories. Reportage dans une demi-heure.
Troisième nuit d'incident donc à Pont-Évêque en Isère.
Voilà, ne pas confondre non, avec pas la patrie du fromage qui, elle, est en Normandie. Pont-Évêque, c'est près de Vienne et il y a eu des incidents après la mort d'un jeune homme qui a été fauché par un train après avoir voulu échapper à un contrôle de police. Et cette nuit, le bureau du maire de Pont-Évêque a été incendié. Les chauffeurs de taxi de Montpellier règlent leur compte. Ils ont bloqué un VTC hier soir. Ils soupçonnaient le chauffeur de ne pas être en règle. Et les policiers ont effectivement constaté que le permis de conduire de ce chauffeur avait été annulé, qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires pour exercer son métier. 2 pesticides interdits par le tribunal administratif de Nice. Il a suspendu ce matin l'autorisation de mise sur le marché du transférum et du closer. 2 pesticides qui servent à traiter contre les pucerons, les cultures de grands champs et les fruits et légumes. Alors c'est une suspension et non pas une interdiction définitive. Le tribunal administratif doit encore se prononcer sur le fond du dossier. Mais en attendant, donc, ces 2 pesticides ne peuvent plus être vendus.
Les sports avec le Clermont Foot qui se déplace à Orléans ce soir.
C'est la 16e journée de Ligue 2. Le Clermont Foot vise une victoire chez un mal classé pour rester dans le peloton de tête du championnat. En Pro D2, Aurillac se déplace à Massy ce soir en banlieue parisienne pour la 13e journée du championnat. Et puis en voile, François Gabart a doublé ce matin le cap Lewin au sud-ouest de l'Australie. Il va entrer dans l'océan Pacifique avec plus d'une journée d'avance sur le record du Tour du Monde en solitaire. Gabart qui a mis 19 jours, 14 heures et 10 minutes pour atteindre le cap Lewin après son départ du port de Brest.
Non, il y a du vent quand même, ça souffle encore, des rafales de vent qui sont encore possibles jusqu'à 60 km/h en montagne, ça va rester assez soutenu. Mais c'est la dégradation qui s'annonce pour ce vendredi.
La météo avec Murprotec Auvergne, solution définitive et garantie contre l'humidité, diagnostic offert sur murprotec.fr.
Des nuages qui s'épaississent au fil de la matinée, puis les premières pluies qui vont toucher l'ouest de notre région. Nous aurons des pluies plus éparses en général, à l'exception du sud de la Limagne et le sud de l'Auvergne, avec Cantal et Haute-Loire qui seront épargnés. Un ciel qui se fera moins menaçant cet après-midi. Les températures vont rester encore assez douces aujourd'hui. On attend des valeurs autour de 12 degrés sur Moulins, 13 sur Clermont-Ferrand. Nous aurons 13 degrés également du côté d'Aurillac et 12 au Puy-en-Velay. Brioude, 13 degrés cet après-midi. Et Thiers, 12 degrés annoncés avec un temps qui est assez couvert, des pluies éparses encore cet après-midi. Du côté de Thiers. Côté évolution du temps, demain c'est encore du changement avec l'apparition de la neige à partir de 800 mètres d'altitude en montagne, des averses qui vont ensuite s'inviter l'après-midi, de la neige dès 1000 mètres ensuite pour le reste de la journée, et puis des maximales qui vont fléchir demain, pas plus de 8 degrés dans les plaines, 3 degrés à 1400 mètres d'altitude. On partage la route ensemble hein, sur France Bleu, vos conditions de trafic en temps réel. Pas de difficulté à vous annoncer sur le réseau autoroutier, quelques chantiers de travaux en cours. Si vous circulez actuellement sur l'A71 en direction de Clermont-Ferrand, toujours ces travaux au point kilométrique, donc point kilométrique 345, la circulation est réduite sur 3 km 3. Bonne route sur France Bleu. Si vous avez des infos routes, c'est au 04 73 34 3000.
Respirez. Apprendre. S'évader, découvrir. H2O, on balade.
On ira promener tout à l'heure en Auvergne avec Christophe Noiseux pour son dernier reportage. On parlera des modifications du climat et leurs conséquences sur le milieu naturel. Les insectes notamment seront au cœur du sujet aujourd'hui. Et puis nous allons parler aussi du milieu humide et hydraulique de notre région avec nos invités que sont Karim Zmantar, qui est directeur de l'agence de Cournant d'Auvergne pour Aquabio, et Vincent Berton, qui lui est un petit peu, on va dire, le technicien finalement. Il est docteur en sciences en hydroécologie. On parle des milieux humides aujourd'hui.
H2O en balade. Jean-François Pujol. H2O.
Alors pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, hein, Karim et Vincent, on rappelle que Aquabio existe depuis 20 ans. Depuis 10 ans, vous êtes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est une SCOP, et que vous êtes spécialisé dans l'expertise écologique aquatique. Donc vous intéressez à tous les milieux aquatiques, que ce soit le ruisseau, la mare ou encore les zones humides par exemple. Et votre travail consiste à faire des relevés, comment ça se passe?
Qu'est-ce que vous... Alors c'est tout à fait ça, notre gamme d'activités touche toutes les eaux de surface, qu'elles soient courantes ou entre guillemets stagnantes.
Pas les nappes phréatiques?
Alors là non, on est face à une autre spécialité. D'accord. Qui est plutôt de l'hydrogéologie.
Oui.
Tout est interdépendant, mais on a d'autres spécialistes qui travaillent plutôt dans ce domaine-là. Et nous, ce qui nous caractérise, c'est qu'on travaille sur le diagnostic du vivant. On... D'accord. Est des biologistes à la base. Oui. Et on sait que dans les rivières, il y a une multitude d'organismes vivants. On va des formes planctoniques, parce qu'on connaît le plancton marin, mais il y a des planctons aussi qui sont dans les rivières, jusqu'à l'ultime, le haut du niveau trophique, qui est le poisson.
Donc on parle de niveau trophique, de quoi parle-t-on?
Alors, le niveau trophique, c'est qu'on a des catégories, des ensembles d'individus qui sont interdépendants les uns des autres, et qui sont interdépendants. Je vais vous expliquer autrement. On a du plancton, du phytoplancton, qui est une des spécialités de Vincent, sur lequel il travaille.
On est dans le vivant, là aussi, le phytoplancton.
Totalement vivant.
Exactement.
Totalement
c'est tout petit, mais c'est vivant.
Bien sûr.
Et donc, on va observer le vivant pour savoir si la qualité de l'eau est bonne. C'est votre démarche à vous.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est une démarche de bioindication, c'est-à-dire qu'on utilise ce qui vit dans la rivière pour savoir si la rivière est de bonne qualité, par exemple. Avec la biblio, on arrive à savoir maintenant les préférences de chacune des espèces. Si on trouve en très forte majorité une espèce qui aime des conditions pristines, on peut s'avancer et dire que les conditions sont pristines.
D'accord. Donc vous avez un historique aussi, puisque ça fait 20 ans que vous existez en France, donc vous avez pu voir un petit peu l'évolution du milieu aquatique de notre pays. Qu'est-ce que ça donne?
Mais tout à fait. Moi, ça fait même bientôt 30 ans que je travaille dans le domaine et dans la région Auvergne et dans d'autres secteurs. Moi, le regard que j'en ai, il y a deux aspects. C'est-à-dire que, notre métier a énormément évolué en une trentaine d'années. On a eu des outils de plus en plus pertinents. On a des éléments qui nous permettent de diagnostiquer parfaitement bien. Le parallèle que je fais par rapport à l'évolution du milieu, on est extrêmement préservé, nous, dans le Grand Massif Central. Hein, je fais, moi, un ensemble Limousin, Auvergne-Limousin, parce que l'unité géographique se fait sous cette forme-là. On est extrêmement préservé. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une trentaine d'années, la qualité des cours d'eau a fluctué, mais on est resté toujours sur des bonnes qualités. Mais je reprendrai ce que vous avez dit au départ, parce qu'il y a une notion quand même qui est intéressante. Vous avez dit, ce qu'on a apprenait tous à l'école, l'Auvergne, c'est le château d'eau de la France.
C'est ça, oui.
C'est une idée reçue
ou c'est vrai aujourd'hui?
C'est une idée reçue. On a beaucoup de sources qui partent d'Auvergne, oui. Mais qui dit château d'eau dit réserve. Mmh. Le problème, c'est que les réserves n'existent pas. C'est-à-dire qu'on est, et vous le savez, et tout le monde le sait, on est dépendant des précipitations. Des précipitations qui sont la neige en hiver et qui sont la pluie de préférence en été. Oui. Donc la chose que nous on constate, et que moi je constate à mon échelle humaine, c'est qu'en 30 ans, on a eu une diminution de l'hydrologie des cours d'eau. C'est-à-dire que on sait que la quantité d'eau, en particulier en période estivale, durant l'été, est en diminution. Ce qui a comme conséquence d'augmenter la concentration de certains composants.
Les cyanobactéries, par exemple.
Mais c'est surtout des composants physico-chimiques.
D'accord.
Moi, l'exemple que je prends, c'est que quand on fait un diabolomante, on met toujours la même quantité de sirop de menthe, mais si on met plus ou moins d'eau, des fois, ça n'a pas très bon
pas
goût.
Terrible.
Et des fois, et voilà. Donc, c'est la quantité d'eau qui joue. La quantité de matière entrante, anthropique, reste constante.
Alors, donc, vous voulez dire, si j'ai bien compris, Karim Zbantark, là, on a un problème aujourd'hui qui est quand même la modification du climat. On voit des départements aujourd'hui qui ont quasiment plus d'eau dans le sud de France. Je pense notamment les Cévennes. On avait l'habitude des Cévenoles dans les Cévennes en ce moment.
Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas plu pendant 6 mois.
Exactement. Et ça, ce sont des choses que vous mesurez, vous, régulièrement.
Nous, on le constate au quotidien. Parce que moi, je reprendrai l'exemple purement professionnel à mon échelle humaine. Quand je travaillais, moi, dans les années 90, les périodes sur lesquelles je pouvais travailler par rapport à les hydrologies des cours d'eau allaient jusqu'à fin septembre. Après, on avait les pluies qui arrivaient en Auvergne, les cours d'eau remontaient. À l'heure actuelle, on arrive des fois à travailler jusqu'à fin octobre, des fois mi-novembre. Alors cette année, c'est un peu exceptionnel. On a eu du froid, on a eu de la neige qui arrivait prématurément.
D'accord.
Mais on a des périodes de chaleur et des périodes de basses eaux dans les cours d'eau qui se sont étendues dans le temps.
D'accord. On va revenir aussi sur... je vous ferai rebondir là-dessus. Ce sera la prochaine question que je vais vous poser sur ces pesticides. On en a deux qui viennent d'être... interdit par le tribunal de Nice, le Transform et le Closer, par exemple. Vous nous donnerez un petit peu votre position quant à la quantité de ces produits phytosanitaires qu'on retrouve dans les eaux douces, par exemple.
H2O. Jusqu'à 13h, redécouvrez l'Auvergne avec H2O et son invité. Take
Chicago nous chanter If You Leave Me Now sur France Bleu.
Flâner, H2O vous emmène en balade.
On est avec Aquabio aujourd'hui, hein, donc une coopérative d'experts en écologie aquatique. On parle de l'eau douce, des cours d'eau, et on va s'intéresser bien sûr à ce qui se passe en Auvergne. Alors tout à l'heure, dans les infos, hein, je le rappelle, cette information que nous donnait Emmanuel, deux pesticides interdits par le tribunal administratif de Nice, ils sont suspendus ce matin, donc pour le transférum et le closer. Est-ce que dans vos mesures, vous, ça fait partie de votre travail de relever justement ces produits qu'on peut retrouver dans les cours d'eau, par exemple?
Alors effectivement, c'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est des choses que l'on suit sur le milieu naturel, oui. Qui ont des incidences directes sur la biologie des cours d'eau, mais qui relèvent plutôt du domaine physico-chimique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la politique nationale de suivi des pesticides est tout à fait récente, c'est-à-dire qu'on a commencé à déterminer un certain nombre de molécules et à suivre maintenant en routine sur l'ensemble du territoire national certaines molécules qui sont listées. On a des grandes quantités, mais c'est quelque chose qui est en train d'apparaître et qui est apparu ces dernières années. C'est pas quelque chose qui a un historique long.
Karim, on retrouve quand même des molécules qui ont pas mal d'années. C'est des molécules de synthèse qui mettent du temps à se dégrader dans la nature. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une augmentation du taux de ces molécules-là aujourd'hui ou ça a tendance justement à être sur la décrue?
Alors pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. Oui. C'est ce que je vous disais, on n'a pas suffisamment d'historique dessus. Par contre, c'est quelque chose qui maintenant préoccupe les pouvoirs publics. On sait qu'il y a une multitude de choses qui arrivent dans les cours d'eau, mais on peut élargir la réflexion à qu'est-ce qui arrive dans les cours d'eau. On sait que malheureusement, une rivière, si vous êtes riverain et si vous êtes pas très à cheval sur le respect de l'environnement, vous jetez quelque chose dans la rivière, le lendemain, vous l'avez plus devant les yeux, donc c'est miraculeux.
Ça n'existe plus, oui.
Voilà, c'est miraculeux, donc c'est facile de jeter dans la rivière. Je pense qu'on est sur, historiquement, des années et des années de rejets dans les rivières, et on aborde secteur par secteur tous ces diagnostics.
Alors, Karim Zbantar, j'ai bien compris que votre domaine de mesure, c'était pas trop physico-chimique, mais plutôt le vivant. Et là, je me tourne vers Vincent Berton, qui étudie justement ces êtres vivants. Ça part de la diatomée à des êtres vivants plus gros, on va dire. Ça peut être les poissons, les batraciens, etc. Quelles conséquences sur ces produits? On parle souvent de produits comme les perturbateurs endocriniens qui vont modifier des choses dans le vivant. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, sur ces mesures à Aquabio, Vincent Berton?
Principalement sur les diatomées. Je peux parler des diatomées facilement.
Rapidement.
Alors, très rapidement. Ouais. On a ce qu'on appelle des formes tératogènes. C'est-à-dire que quand des micropolluants sont présents dans les eaux, on retrouve des formes, des algues qui sont déformées par rapport à leur état normal, ouais. Sans cette présence de micropolluants.
Quelles conséquences sur le vivant? C'est juste une question de déformation ou c'est qu'ensuite ça va poser des problèmes dans la chaîne alimentaire, par exemple?
C'est sur la chaîne alimentaire. À partir des diatomées, je pense pas. Ouais. On a un dérèglement une malformation comme on peut avoir
des malformations. Qui est génétique finalement? Qui est une déformation génétique ensuite du vivant?
Génétique non plus. D'accord. Ça sera la présence d'une malformation physique.
Sur le vivant, les poissons, on dit qu'il y a des poissons qui changent de sexe carrément. Vous avez constaté ça, vous, dans vos observations? On va poser la question à Karim Zvantar.
C'est un peu compliqué. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est attraper le poisson petit, déterminer son sexe, le rattraper quelques années après et revoir son sexe. Par contre, j'ai un exemple d'une étude qu'on avait fait sur le parc du Morvan, ouais, avec l'université de Dijon sur des restes de mines de fer gallo-romaines. Et on avait travaillé sur la dissymétrie des truites par rapport à la présence de fer, donc de métaux.
Qu'est-ce que vous appelez dissymétrie?
Alors dissymétrie, c'est-à-dire que...
Elles n'avaient pas les yeux dans les coins, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que quand je vous regarde, oui, et que je tire un trait au milieu,
c'est pas,
vous avez a priori deux bras, vous avez deux yeux, voilà.
Mais on n'est pas symétrique, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. Mais on a des choses qu'on retrouve. Dans le cas de bioaccumulation, c'est-à-dire, d'accord, d'accumulation de métaux lourds à l'intérieur des organismes, il y a des malformations de symétrie.
D'accord.
Donc, la problématique des milieu, la problématique de l'impact que l'on a sur la biologie, on peut la remonter aussi aux gallo-romains et aux mines d'extraction gallo-romaine.
Ça n'a pas lié à ce que vous voulez dire.
Exactement, ouais, exactement. Mais après, toute la complexité de notre travail, c'est de dire qu'est-ce qui relève du naturel, qu'est-ce qui relève de l'anthropique, de l'intervention extérieure. Et pour me résumer, la nature, elle n'est pas aussi généreuse que ça. La nature, elle peut des fois être extrêmement cruelle, naturellement, vis-à-vis de milieux qui sont très peu accueillants. Par exemple, on prend le Sahara, c'est bucolique, c'est extraordinaire, mais c'est pas accueillant.
Voilà, en l'occurrence, ces modifications dont vous parlez, c'est quand même lié à l'homme, même si c'était il y a très longtemps.
Tout à fait,
c'est un impact très important dans l'empreinte humaine. Très bien. On va voir aussi une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut aussi observer un retour de la nature qui reprend ses droits, et des espaces pollués qui finalement, avec le temps, arrivent à se dépolluer. Vincent Berton.
Alors oui, bien sûr. Heureusement, j'ai pu faire moi un travail pendant mes études où je travaillais sur des trois grands lacs périalpins. Oui. On a une augmentation après-guerre sur le bassin versant des trois lacs de l'urbanisme et de l'industrialisation. Ça entraîne une augmentation du niveau trophique dans les lacs, donc beaucoup plus de nutriments qui arrivent dans les lacs, pas encore de tout à l'égout, pas encore d'épuration de l'eau, et finalement, avec le temps et avec des mesures comme l'interdiction des lessives phosphatées sur les bassins versants de ces lacs-là, on retrouve des niveaux trophiques qui ne sont pas bien sûr encore au niveau d'un état de référence qui serait à la moitié du 19e siècle, mais on va retrouver des niveaux trophiques quand même meilleurs.
Quand dit trophique, traduisez un petit peu.
Pardon, oui. Ouais. Moins de nutriments dans les lacs et un état qui revient, un état à peu près naturel sans impact anthropique.
Ça dépollue. Il y a d'ailleurs des plantes qui ont cette capacité à dépolluer.
Oui.
On a eu des expériences aussi très intéressantes de
bioremédiation.
Ouais. Plocher, par exemple. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est aussi assez intéressant. Mm. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a possibilité d'un retour à une eau de meilleure qualité dès qu'on la laisse tranquille, finalement. C'est un petit peu ce qui se passe.
C'est ça, voilà. Quand on l'utilise à bon escient et quand on arrive à l'épurer après nos activités qui ne sont pas stoppables comme D'accord. ça du jour au lendemain.
Karim Zmantar, Vincent Berton pour Aquabio. Alors Aquabio se dit une entreprise humaine, responsable, qui participe à la préservation du territoire, on l'a bien compris. Vous avez aussi des missions pédagogiques à Aquabio, et c'est ce dont on va parler maintenant. Je vous ai demandé de choisir un invité. Qui avez-vous choisi, Vincent, comme invité?
Alors, ce sont de nouveaux partenaires,
ouais.
Avec qui nous commençons à travailler. Donc c'est l'association Féerie. Et Féerie, leur travail constitue comment dire,
l'éducation à l'environnement.
L'éducation à l'environnement, au développement durable, par un côté naturaliste et aussi un côté artistique. Qui
Absolument.
Est,
ben on va voir tout ça en détail avec Simon Duru, hein, qui on va appeler dans quelques instants, qu'on va retrouver pour cette collaboration que vous avez effectuée entre justement l'association Féerie et Aquabio. France Bleu.
En avant la musique. Musique traditionnelle en Auvergne, interview de musiciens, danseurs et chanteurs de pays.
D'avoir un ensemble qui ne soit constitué que d'instruments à cordes, pour revisiter une partie du répertoire traditionnel et aussi en écrire une autre.
En avant la musique, José Dubreuil.
Dimanche de 12h30 à 13h, à retrouver sur francebleu.fr.
France Bleu Pays d'Auvergne, à Gerza, 102.5.
On va tout de suite retrouver donc notre invité, c'est Simon Duru qui nous rejoint pour l'interview Ricochet.
Découvrir l'Auvergne. H2O, partez en balade.
Bonjour Simon.
Oui, bonjour.
Alors Simon,
bonjour,
vous êtes animateur nature de l'association Féerie.
Exact.
La bonne nouvelle, on va dire bon anniversaire à vous. Vous avez bientôt 10 ans, vous aussi, si j'ai bien compris, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais.
Une association qui compte 3 salariés. Vos missions, bah, c'est un travail d'éducation à l'environnement, c'est ça?
C'est ça, et du coup, on a un grand public assez large. On va du scolaire au grand public. Mmh. Et donc, on fait ça sur la région de Thiers, en fait, autour de Thiers. On a notre siège social dans cette belle ville de Thiers.
Alors depuis 10 ans, vous travaillez proche de la nature et puis vous vulgarisez un petit peu la nature. Vous avez même créé un club nature récemment, m'a-t-on dit, Simon?
Exactement, oui. On a créé un club nature à destination du jeune public de Thiers. On fait ça le mercredi après-midi.
Oui.
Et on travaille ensemble avec les enfants sur des sujets de nature, et puis on va se balader dans la ville de Thiers qui a quand même pas mal d'espaces naturels, et puis on essaye de connaître la nature pour mieux la protéger.
Il y a des ateliers grand public qui sont proposés aussi sur la base Ilois de Thiers. On observe quoi? Les oiseaux, les étoiles? Qu'est-ce qu'on fait, Simon, avec vous?
Alors, on observe, il y a des balades sur les oiseaux, on fait aussi des choses sur les plantes sauvages comestibles, ouais. On fait un peu d'astronomie avec essentiellement du conte pour reconnaître les constellations. En fait, on essaye un peu de donner un peu de, comment dire, de poésie à ce côté naturel pour avoir envie de protéger ce qui est beau, quoi. Ce qu'on trouve beau, en tout cas.
Alors, Simon, il y a une collaboration sur un projet pédagogique commun avec Aquabio qui s'appelle Contrat de territoire d'or moyenne. C'est pas très sexy, mais de quoi s'agit-il exactement?
Alors, les contrats de territoire, c'est des communes qui s'associent pour restaurer la continuité écologique du milieu aquatique. Ouais. Donc ça rime. Donc tout ça pour dire qu'en fait une rivière, il y a une source et une embouchure, et entre les deux il y a une rivière, et l'idée c'est de pouvoir permettre notamment aux poissons migrateurs de pouvoir remonter de l'océan jusqu'à la source, en gros. Donc il y a une équipe technique qui fait des chantiers de rivière, qui, ouais, accompagne les propriétaires, ouais, de ruisseaux. Et ils ont aussi une partie qui délègue aux associations pour sensibiliser le public scolaire et centre de loisirs.
Alors, Simon, votre travail à vous, c'est d'amener les scolaires sur ces travaux-là?
Alors, nous, en fait, on intervient 3 demi-journées avec les scolaires. Mmh. Alors, sur des sujets qu'ils ont choisis. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'aller sur des rivières ou des ruisseaux, des cours d'eau qui sont à côté de chez eux pour, mmh, connaître le milieu aquatique d'à côté, mmh, de chez eux. Et normalement, l'idéal, c'est en fin de cycle de voir concrètement ce qui peut se faire. Donc soit un chantier de l'équipe rivière, mmh, ou alors là, dans le cas du projet que j'ai mené avec le collège de Quinria, j'ai demandé à Aquabio, qui sont des experts du coup en hydroécologie, mmh, de bien vouloir montrer aux jeunes comment on peut observer la qualité de la rivière, donc en faisant des relevés des plantes, de la faune aquatique, d'accord, des propriétés physico-chimiques de l'eau.
Très bien, on va stopper là pour aujourd'hui parce que l'horloge, ouais, tourne, malheureusement, comme d'habitude, ouais, ça va trop vite. On vous invitera, c'est promis, Simon, avec l'association, à venir nous rendre visite ici pour une émission complète, ok?
Avec grand plaisir.
Merci, la page Facebook Association Fée et Ri pour tout savoir. Et des séjours de vacances pour les jeunes, des ateliers grand public, tout ça est proposé toute l'année. Bien, on va revenir avec vous pour conclure un petit peu cette émission. Il y a un vrai travail de pédagogie à faire autour de l'eau, justement, de l'eau douce aujourd'hui.
Ah mais tout à fait. Et puis ça, on a vocation, nous, et on inscrit ça dans le travail qu'on fait à Aquabio. C'est-à-dire qu'on passe du temps aussi, on met à disposition du temps de moi et mes collègues bénévoles pour instruire les enfants, pour amener la connaissance, pour faire la découverte du milieu naturel. Ça fait partie intrinsèquement de notre travail, effectivement.
Voilà, Aquabio, qui a 10 ans de scope, 20 ans. Je termine là-dessus, mais très très vite. Qui sont vos clients, du coup, aujourd'hui?
Alors, les clients sont multiples. Hein. C'est, ouais, à la fois des privés, des publics. On peut avoir des industriels. Nos principaux clients sont les agences de l'eau. Mais on est ouvert à toute personne qui se préoccupe ou qui a un sujet précis et des questions sur l'eau et la rivière. Alors, et les lacs.
Si on vous invite dans une école, vous venez éventuellement?
Bien sûr que oui, bien sûr, voilà, que oui.
Bon, on va laisser vos coordonnées en ligne. C'est www.aquabio-conseil-au-singulier.com. Merci à tous les deux, Karim et Vincent, d'être venus. Puis on
merci
dit,
beaucoup.
À très bientôt dans l'eau douce.
Exactement.
Au revoir.